Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume.
Bonjour à tous.
On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture.
Ça compte dans les 5 légumes par jour ?
C'est des fruits, généralement. Donc moi, je dis que ça compte.
Ok, des fruits, du sucre.
Tout ce qu'il faut. On a besoin d'un peu de sucre.
Ouais. Hein ? Et d'un peu de culture.
Et beaucoup de culture, c'est vital.
Sans culture, on n'a pas de fruits.
Aussi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume ?
Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant les années sombres. Et ensuite, on parlera de l'empereur des États-Unis.
Tout à fait. Et donc, c'est toi qui commences avec les années sombres.
Oui, c'est moi qui commence. Alors, bon, tu sais, notre mission, c'est d'apprendre des trucs,
oui,
et de les raconter à notre manière, comme tu viens si bien de le dire. Et si possible, d'apprendre des trucs que peu de gens connaissent.
Ouais.
Sinon, ça a moins d'intérêt. Notre mission, c'est aussi d'aller percer les secrets qu'on nous cache et les mensonges qu'on essaie de nous faire avaler. Et des mensonges, il y en a partout, mais il y en a aussi dans la Bible.
Ah bon ? Non, tu déconnes.
Non, alors, je sais que dit comme ça, on pourrait croire que je suis un peu sceptique sur la véracité du récit biblique. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je vois pas du tout ce qui pourrait nous permettre de remettre en cause les mules qui parlent, les serpents en métal qui soignent les maladies ou les multiples épisodes de nécromancie.
ça a pu arriver, on sait pas. On a perdu des connaissances.
Ouais, voilà. Ou les passages où Dieu arrête le temps pour que ses élus puissent continuer à massacrer leurs ennemis sans être gênés par la nuit qui tombe.
Alors j'ai vu Flash, il n'y a pas longtemps, c'est un peu pareil. Donc voilà.
Voilà. Là, on ne va pas aller contre le consensus scientifique bien établi. Hein. On va pas non plus tout remettre en cause en permanence.
Non, ça serait trop. Trop d'un coup.
Mais plutôt que d'aller voir des contre-vérités, il faut avouer que dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires.
Voire
carrément manquante.
Oui, aussi.
Ah bon, sinon, on n'aurait peut-être pas des gens qui se battent sur des interprétations depuis des siècles. Et parmi ces énigmes, il y a celles qui concernent les années obscures. Si tu veux, c'est un peu comme les années sombres pour nos grands-parents. Personne ne sait vraiment dire avec précision ce qu'il a fait pendant 4 ou 5 ans. Une sorte de l'amnésie du maquis, tu vois.
Oui, ou d'Amérique du Sud.
C'est ça.
En Argentine, je crois qu'il y a beaucoup de...
Mais là, on parle de Jésus.
Oui.
En gros, entre le moment où il va aller faire son nerd avec les savants du temple à 12 ans pour leur dire « je suis bien meilleur que vous et vous n'avez rien à m'apprendre » et celui où on le retrouve à 29 ans, ben on ne sait pas trop ce qu'il fait.
Soit donc...
17 ans.
17 ans.
17 ans de training montage. Quoi. On peut faire plein d'hypothèses hein, sur ce qui arrive à notre Messie et certains ne s'en privent pas. Luc va nous dire qu'il avance en sagesse et en stature.
Mais comment
Voilà, c'est... Bah, là, tu vois,
Apex,
c'est...
quoi.
ouais. C'est vraiment... j'avance en sagesse et en stature, c'est l'équivalent vraiment littéraire du training montage, quoi. On vous montre trois trucs, allez-y, il a avancé, il est meilleur. Généralement, on admet qu'il a étudié la religion.
Oui, bah, en même temps.
Oui, ouais, en même temps, quand t'es fils de Dieu, est-ce que t'as vraiment besoin d'étudier la religion ?
Et on admet jamais qu'il a étudié la charpenterie, parce qu'il...
Si. Il apprend la charpenterie. Alors, charpenterie, travail du bois, on verra. Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il a fabriqué la fameuse coupe du charpentier.
Bah oui.
qui s'occupe aussi de sa famille après la mort de Joseph.
Ah, il meurt, Joseph ?
Bah alors, là aussi, c'est un peu des suppositions. Parce que, en fait, Joseph, c'est pas une énorme star de la Bible.
Non.
On pourrait se dire, quand même, le mec, c'est bon, au moins le tuteur légal du Fils de Dieu. C'est pas mal. Mais, bah, en fait, quand on reparle de Jésus avec après ses 29 ans, bah, il n'y a plus de Joseph.
Ok, il a juste disparu. Bon.
Il a juste disparu, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il a pris sa retraite.
Et on n'a pas retrouvé son journal intime, c'est étrange.
Non. Donc, l'hypothèse de l'apprentissage local, c'est simple, c'est raisonnable. Mais, moi, je trouve que c'est justement peut-être un petit peu trop raisonnable pour l'inventeur du ski nautique sans traction. Est-ce qu'on n'essaierait pas, en mettant un peu ça sous le tapis, de cacher quelque chose ? Parce que quand on creuse, on peut trouver des explications alternatives. Alors, par exemple, une explication crédible va reprendre un personnage évoqué dans le documentaire dont on vient de parler, tu sais, avec la coupe du charpentier.
Tout à fait.
Voilà, Joseph d'Arimathie.
Ah oui, mais dont on parle dans d'autres trucs aussi.
Voilà. Donc, lui, il est missionné pour s'occuper du corps de Jésus. et donc ce sera lui qui récupérera le Graal. Il y a un petit doute toujours le fait que ce soit lui ou ses suivants qui vont ramener le Graal en Angleterre.
Parce que bon, ils se sont perdus dans leur retard.
C'est pas très sûr. Tout ça, ça aboutira à l'histoire d'Arthur, dont l'historicité n'est bien sûr pas à remettre en cause.
C'est pas notre genre. On en a parlé d'ailleurs, quand on avait parlé du Graal il y a longtemps.
Bref, il y a un lien clair entre ce Joseph et la perfide Albion.
Oui.
À partir de là, je vois pas ce qu'il y aurait d'étrange à penser que cette connexion existait pendant les années de formation de Jésus. Alors Joseph, lui, il était marchand d'étain.
Ok.
Joseph d'Arimathie, mais
ça, il n'y a pas de ce métier.
Voilà. Et puis l'étain, je pense que c'était un peu plus
précieux
que maintenant. Donc il était marchand d'étain et il est tout à fait vraisemblable qu'il soit rendu du côté de Glastonbury. C'est pas vraiment illogique de se dire, à ce moment-là, je vais amener mon petit protégé, le jeune Jésus.
Et alors d'où Jésus, c'est le protégé de Joseph d'Arimathie?
En fait, Joseph d'Arimathie, c'est le grand-oncle de Jésus.
Ah, je savais pas ça. Tu vois, on apprend des trucs.
Et donc, t'es marchand d'étain, tu vas pas le laisser être charpentier, quoi.
Ouais. Puis il faut qu'il voie du pays, quoi.
C'est ça. Donc, il est vraisemblable qu'il ait emmené le jeune Jésus pendant un de ses voyages d'affaires dans les mines d'étain anglaises.
Effectivement. Enfin, il y a rien qui nous empêche de le dire, en tout cas.
Mais on a des preuves.
Ah.
Oui, les locaux à Pridi, par exemple, un petit village qui n'est pas si loin que ça de Stonehenge, ils attestent de son passage. Et il est fort probable qu'il ait du coup discuté un peu avec les druides locaux et influencé leurs traditions, comme l'écrit, par exemple, le prince druide Taliesin.
Pas Merlin Taliesin ?
On peut le croire parce que c'est quand même un gars qui a erré 40 ans dans la flotte sous forme de bébé, enfin de fœtus, avant d'être pêcher par hasard et pouvoir devenir enfin un nourrisson.
Ouais. Donc un type normal.
Je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. On va pas faire le scepticisme à tout craint.
Et puis les fœtus sont des personnes, comme l'a décidé
la Cour suprême d'Alabama.
Voilà.
Et l'histoire veut aussi, si on en croit encore les locaux, qu'il ait construit la première maison en torchis de Glastonbury.
Écoute,
il est charpentier.
Jésus, du coup, pas Thalys.
Oui, Jésus. Non, Jésus, il est venu, il a dit « c'est de la merde quand même, votre truc. »
les gars, je vais vous montrer comment on fait une cabane. Hein.
Moi, je suis chef cabane, j'ai fait LV2 charpenterie, tout va bien. Il y a d'autres hypothèses, que celle-là qui est quand même déjà assez bien établie par la tradition orale, dont on n'a aucune raison de douter. Pour les aborder, il faut parler peut-être un peu plus du Proche-Orient de l'époque.
Mmh.
En gros, au 1er siècle, il y a trois marques de juifs. On a les pharisiens, les sadducéens et les esséniens.
Ok, et pas les samaritains, ils sont plus juifs, eux.
Non, en fait, samaritain, c'est une région, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Et là, on parle plutôt de secte, de tradition religieuse. J'imagine qu'on peut trouver des pharisiens à la samaritaine. Enfin, on trouve de tout à la samaritaine, de toute façon.
Si vous voulez nous envoyer de l'argent, la samaritaine, n'hésitez pas.
Donc, les Esséniens ne sont pas mentionnés dans la Bible, mais on peut penser, à la fois par leur philosophie, qu'on a compris après grâce aux fameux manuscrits de la Mer Morte, qui sont des manuscrits esséniens, qui est très très proche de ce que dit Jésus dans le Nouveau Testament, et le fait que... Bizarrement, Jésus, il clash un peu tout le monde.
Oui, c'est un peu son truc.
C'est un peu son truc. Il clash les pharisiens, il clash les sadducéens, mais jamais il clash les esséniens.
Parce qu'il serait d'accord avec eux.
On se dit, est-ce qu'il n'y a pas des liens entre les deux? Voire, est-ce que Jésus ne serait pas essénien? Et il se trouve que ces esséniens, ils ont pas mal de points communs avec une autre croyance religieuse, les hindous.
Ils ont 5000 dieux d'ailleurs.
Non mais alors, ils sont véganes, ils sont non violents et comme leurs zoologues du sous-continent, ils préfèrent brûler des effigies d'animaux plutôt que de sacrifier vraiment des animaux.
Ce qui est mieux.
Il y a une certaine égalité homme-femme. Il y a une certaine idée de la pureté aussi qui est importante à la fois dans l'hindouisme et chez les esséniens.
Alors par contre, l'égalité homme-femme, c'est pas l'hindouisme qui venait tout de suite à l'esprit, quoi.
Disons, pour l'époque.
Voilà, faut remettre dans le contexte.
C'est ça. On a des liens avérée entre hindouisme et judaïsme dans le Zohar, qui date du 2e siècle. Enfin, du 2e siècle, mais enfin, on ne sait pas trop, 2e siècle ou 13e siècle.
Ouais, bon. Parce que pour moi, le Zohar, ça avait été écrit à Strasbourg au 13e siècle.
Quoi. Oui, mais le Zohar, ça date du 2e siècle ou du 13e siècle, on n'est pas très sûr. Mais les Esséniens, eux, ont un grand maître qui est traditionnellement affilié à Moïse. Donc c'est un descendant de Moïse. Et Moïse, lui, il a appris la religion égyptienne.
Ouais.
Et cette religion égyptienne, d'où elle vient ?
D'Égypte.
Bah, de l'hindouisme.
Ah ouais ?
Oui, si on en croit les hindous. donc Jésus, il aurait eu assez tôt des liens avec l'Inde.
Ouais.
Bah, notamment Gaspard, par exemple.
Gaspard.
Gaspard, roi mage.
Ah oui, ah bah oui, oui, oui.
Gaspard, un des rois mages, qui ne serait autre que Gondopharès Ier, qui règne sur un territoire qui comprend l'est de l'espace perse, une partie de l'actuel Pakistan, le sud de l'Afghanistan et peut-être un bout de l'est de l'Inde.
Donc presque jusqu'à Delhi, quoi.
Bref, c'est un mec qui a fait le lien entre cette communauté potentiellement essénienne de Jésus et l'Inde. Et il a fait le voyage.
Ouais, ok, ok, ouais.
Et naturellement, quand notre JC atteint ses 12 ans et qu'il doit être éduqué, bah, il va aller voir les Esséniens. Il a déjà scoulé les pharisiens et tout ça. Il va voir les Esséniens et c'est un peu pareil. Il se rend vite compte qu'il n'a plus rien à apprendre.
Désolé les gars. Mais...
Désolé les gars, j'ai 12 ans, je m'y connais mieux que vous en religion. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais ? Où donc se tourner, si ce n'est vers ce qui deviendra la plus grande démocratie du monde ? Le territoire des 1000 sagesses.
Et des 3000 lieux.
Alors, ça peut paraître étrange, mais on a aussi des sources écrites irréfutables. On les doit notamment à Nicolas Notovitch, un journaliste russe qui, en 1894, donc presque au même moment, voyage en Inde. Et là, il va faire escale au monastère de Émis. En repartant, il se casse la jambe, il est obligé de rester sur place.
Ok, bon.
Bon. Donc, il va y faire un long séjour. Il va faire pote avec les monastériens, enfin les moines. Et c'est là que l'abbé va lui montrer un texte qui s'appelle le Natanamavali, un manuscrit qui raconte la vie de Jésus en Inde.
Ok. Qu'il avait là, qui traînait.
Voilà, qui gardait. Alors, Jésus en Inde, on l'appelle Icha.
Ouais. Parce qu'il prononce pas pareil le J.
Ouais, c'est ça. Ouais, ou qu'il a changé. Il a pris un nom de.
Un nom d'emprunt.
Un nom d'emprunt pour avec un faux passeport et tout ça. Quand notre prophète arrive là-bas à 14 ans, donc.
Logique.
Il va recevoir l'enseignement spirituel et yogique parfait pour devenir le Messie.
Le yoga qui a été inventé 10 siècles plus tard.
Ouais, bon. Donc il va se promener d'abord d'une cave dans l'Himalaya jusqu'à Varanasi. Donc, qui est la ville qui est une ville religieuse consacrée à Shiva, pour y rencontrer les plus grands experts. Si dans les montagnes, il va principalement s'attarder sur le yoga, c'est à Benares, donc Varanasi, qui va étudier la théologie. Puis il va aller au Gaudavan Math, l'un des 4 établissements créés par le saint philosophe Adi Shankara, et au temple de Jagannatha. Donc, Jésus, il va même devenir prof là-bas.
Parce qu'il aime bien enseigner la religion aux gens.
Ouais, c'est ça. Pour ça, on a retrouvé des preuves. Hein. On a le récit de Swami Abhedananda, qui, en 1922, a pu, lui aussi, voir le fameux manuscrit du monastère de Émis.
Ok.
Malheureusement, bon, il est mort avant d'avoir pu le publier. Et donc, on n'a jamais eu vraiment les sources. Et voilà, on n'a pas le droit d'avoir accès à ce manuscrit. Mais...
Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir accès à ce manuscrit ? Parce que c'est quand même un peu important.
Ben parce que c'est le trésor du monastère. On laisse pas n'importe qui accéder à la sagesse. Donc si t'es initié, tu pourras sans doute partir et voir ce manuscrit.
Ok, ben écoute, c'est ma mission.
Qui existe sans aucun doute. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, même le curry. Jésus doit partir.
Ben oui, il est appelé par des...
Ouais. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, quand t'es un mec saint et un prophète, c'est pas bon pour le business quand t'essayes d'être gourou et que t'es dans un pays, le pays des 100 000 gourous, quoi.
Ouais, il y a un peu de concurrence, quoi.
C'est ça. Donc, les gens... Mais en plus, comme lui, il est ultra fort, les gens commencent à dire du mal de lui.
À être jaloux.
À être jaloux et tout ça. voire à comploter et planifier son meurtre.
Et bien sûr, il est mis au courant.
Ben oui, donc il part.
Logique.
Il va faire un tour par l'Himalaya sur le chemin du retour.
C'est plus pratique, ouais.
Non, il apprend que sa mort se rapproche quand il recevra de la balsamine de l'Himalaya.
C'est quoi la balsamine ?
Alors, c'est une plante. Et ça manquera pas parce que c'est une plante qu'utilisera Marie-Madeleine pour le laver.
Mais c'est un poison, du coup ou...
Non, c'est une plante.
Ok.
C'est une plante qui pousse dans l'Himalaya.
D'accord. Et donc, Marie-Madeleine le lave à la balsamine et ça annonce sa mort, quoi, du coup.
C'est ça. Il dit « Ah !»
Putain. Enfin, oui, mais je veux dire...
C'est une des rares fois où on peut... Donc, il est fin prêt. Et il peut rentrer en Israël et finir sa mission. On peut se demander pourquoi le christianisme, si en fait le message qu'apporte Jésus, c'est le message de l'hindouisme. Pourquoi on a besoin de faire une nouvelle religion ?
Il faut traduire.
Ben, en fait, c'est un peu ça. Moi, l'hypothèse que j'ai lue, qui vient d'éminents hindous, dit que globalement, les apôtres, et c'est par eux qu'on connaît l'histoire, hein, c'est eux qui ont écrit, c'est pas Jésus, mais ils sont un petit peu cons comme des briques. Et qu'ils n'ont pas vraiment compris toute l'essence du message.
Ah, bah c'est parce qu'ils n'ont jamais vu un éléphant, donc un dieu à tête d'éléphant, ils ne peuvent pas comprendre, quoi.
C'est ça. Et donc, en fait, ils se sont dit, ah tiens, c'est un truc hyper nouveau, c'est une nouvelle religion. Bah non, c'est l'hindouisme, mais ils sont trop cons pour faire le rapprochement.
C'est parce qu'ils sont jamais sortis de chez eux.
C'est ça.
Bon, ils n'avaient pas Internet.
C'est ça, exactement. Et souvent, d'ailleurs, on voit que dans les évangiles, bah, ils sont souvent cons, en fait, les apôtres. Enfin, souvent, Jésus il raconte des trucs et eux, ils disent « Ok ?»
Ah bon, t'es sûr ? Ouais, ouais, ouais.
Et que du coup, bah, Jésus, il est obligé de leur...
C'est vrai qu'il leur explique un peu comme à des débiles, hein, les trucs.
Donc, enfin voilà, c'est toujours un petit peu marrant de les voir. Ah, c'est ça. Que tu... Alors bon, qu'ils aient pas compris le fond du fond, peut-être que c'est pas une hypothèse si stupide que ça.
Ouais, ouais, effectivement.
D'ailleurs, tu constateras, et là je t'apprends rien, que cette histoire d'ascension de Jésus, elle est mentionnée que dans l'évangile de Luc.
Ouais.
Et on peut vraiment se demander s'il est parti au ciel comme ça parce qu'il en avait marre. Ben, tu vois, il est...
Bah, il était mort et ressuscité, c'est fatigant. Hein.
Ouais. Alors, on reparlera de... Mais on peut vraiment se demander. En fait, t'en as un sur quatre qui dit qu'il a fait l'ascension. Donc, les autres... Enfin...
Un sur quatre qui, en plus, est le seul qui n'ait jamais connu Jésus.
Oui.
Bon.
Le Nathana Wally va nous donner une version un peu différente. Et sûrement plus crédible.
Sûrement.
Donc, Jésus est bien crucifié. Mais grâce à son entraînement, il est rentré en état de samadhi, soit d'après la définition, un état d'équanimité où l'intellect va au-delà de sa fonction normale de discrimination. En gros, sa situation n'est pas top, quoi. Mais il sort un peu de son corps. Il dit oh.
C'est pas cool.
la crucifixion, c'est pas très cool.
Ça fait mal.
Voilà. Donc il sort de son corps et là, bien sûr, les apôtres et ses disciples, cons comme ils sont.
Oui.
Ils se rendent pas compte que c'est du samadhi.
Bien sûr, mais parce qu'ils connaissent pas, ils ont pas été entraînés.
Oui, c'est ça. Et donc ils le croient mort.
Bien sûr.
Donc ils le décrochent, ils vont le mettre au tombeau. Et à des milliers de kilomètres de là, son ancien gourou, qui s'appelle Chetan Nata.
Chetan, comme comme le chétan.
Alors ça s'écrit pas pareil. Ouais. Ça se prononce peut-être pas pareil. Lui, il est en profonde méditation et il se rend compte de la situation.
Connexion, internet.
Connexion, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il évite jusqu'à Israël pour arrêter les conneries.
Putain, il évite vite. Bah, en fait, c'est trop quand même.
Ouais, mais du coup, c'est pour ça qu'il évite. C'est pour ça qu'il est easy. Il y a un truc à faire. Il... Hop, j'y vais. Quoi.
Parce qu'il a 3 jours hein, quand même avant que.
Ouais. Et donc, il va l'éviter jusqu'à Israël pour arrêter les conneries. Là, il va le faire revenir Jésus de son samadhi. Et l'emmener en Inde pour fonder un ashram.
Ok. Il l'évite dans l'autre sens.
Et ça, c'est prouvé, sans aucun doute possible, puisqu'on a le bâton de Jésus dans un monastère indien de l'Himalaya.
Et c'est le vrai bâton de Jésus, bah, oui. Sans doute possible, tout ça, tout ça. Ouais.
Oui, Bah alors, je te l'accorde, dans cette histoire, on a une ou deux hypothèses qu'on... Bon,
fortes.
Fortes, qui sont pas qu'on va avoir un peu de mal à vérifier.
La lévitation, par exemple.
C'est pour ça qu'il y a une, c'est pour ça qu'il y a une alternative, qui est sûrement plus crédible, mais bon, je te laisse juger. L'endroit le plus probable où Jésus s'est rendu pendant ces années sombres, bah c'est le mont Fuji.
Logique, tout à fait logique.
Donc, il arrive au Japon, hein, via le port d'Amano à Shidate, à l'âge de 21 ans, et il va pouvoir découvrir la culture japonaise sur le chemin, juste entre le port et le mont Fuji, avant de trouver un maître qui est là, à côté du volcan sacré, je sais pas, il est sûrement auprès d'une cascade ou un truc.
Voilà, il essaie de faire remonter la cascade.
Qui pourra pousser son apprentissage jusqu'à ce qu'il soit prêt à revenir.
Mais donc, il a quand même mis 9 ans à faire Israël-Japon. Donc, lui, il est vite pas vite, quoi.
Ouais. Là, dans, bah, c'est une...
il est jeune, encore.
Il est peut-être passé par l'Inde, il est passé par l'Inde et tout ça. Donc...
Ah, oui, oui, oui.
Il a appris l'hindouisme et tout ça. Si l'histoire ressemble un peu à celle qu'on a racontée avant, je pars pour m'instruire auprès d'une civilisation bien plus avancée, elle varie en un point important parce qu'elle va faire la part belle à un personnage qui est un peu oublié, le frère de Jésus.
C'est pas... Ah ouais. Comment il s'appelle?
En fait, un de ses frères. Parce que oui, on a tendance à imaginer Jésus comme un fils unique, mais le Nouveau Testament nous parle bien de Jacques, Josette, Jude et Simon comme ses frères.
Ah oui, c'est ça ce que j'allais dire. Simon, frère de Jésus, il y en a deux qui sont apôtres au moins là-dedans, Jacques et Simon.
Je crois qu'il y en a deux qui sont apôtres. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais...
Alors, tu...
En fait, il y a un petit débat quand même sur ce que ça signifie, parce que pour les catholiques, il ne faut pas... aller trop vite en traduisant l'araméen « aha », qui signifie « frère », mais aussi « parent proche ».
Ou aussi « frère », quoi. Frère.
Non, c'est plus, tu vois, premier cousin, des...
Ouais.
Des trucs comme ça. Donc, en fait, dans la tradition catholique, Marie, elle est restée pure.
Mm-hmm.
Et Jésus, lui, il est bien fils unique, mais avec des cousins très proches. Donc ça, c'est la théorie hiéronymienne, hein, de Saint Jérôme. Chez les orthodoxes, on met un peu moins de distance. Oui, ok, il a des frères, mais en fait, ses frères sont des fils de Joseph issus d'un précédent mariage.
Oui, parce qu'en plus, Joseph, il est censé être vachement plus vieux que Marie.
Ah oui, il est... oui. Hashtag grooming. Et donc, chez les orthodoxes, bah voilà, c'est pas des cousins, mais c'est des demi-frères.
Ouais.
Et puis, chez la majorité des protestants, on reconnaît que bah, Dieu passe pas très souvent, que Marie, du coup, elle commence un peu à se lasser, et que, bon, après tout, elle est mariée.
Oui, et donc il faut quand même...
Voilà, et donc les frères seront bien des frères biologiques, mais des petits frères. Tout ça, c'est bien beau, mais les évangiles ne mentionnent pas le frère le plus important, Isukili. Alors,
ni le frère en Chine aussi qui a provoqué la révolte des Taïping, dont on a déjà
oui,
parlé.
C'est,
mais bon.
C'est vrai. Peut-être que c'est à dessein parce que ça va être un personnage déterminant dans cette histoire. Une fois revenu en Israël, en passant, apparemment, il est passé par le Maroc. Parce que pourquoi pas.
Bah, c'est en ligne droite. Entre le Japon.
Jésus est donc pourchassé par les Romains et condamné. Mm-hmm. Ça, on connaît l'histoire. Mais c'est Isukiri. Donc, si on parle un peu japonais, bah, ça fait un peu Jésus-Christ hein, quand même, qui va habilement et courageusement prendre la place de son illustre frère. Et c'est lui qui va mourir sur la croix.
Ah.
Hop, on fait croire. De toute façon, les juifs, ils se ressemblent tous. Oui. Les romains, ils ne voient pas la différence. Bon, bref.
Il n'y a pas la même chose dans l'islam. Je crois qu'il y a un débat dans l'islam sur est-ce que c'est vraiment Jésus qui est mort sur la croix ou est-ce qu'on ne l'a pas remplacé par un type qui le...
Je n'ai pas creusé la version islamique des choses.
Mais pareil, il y a un problème de traduction sur un mot où on n'est pas bien sûr que ça veuille dire sosie ou frère ou... bon, bref.
Mais du coup, Jésus, lui, il n'est pas con, il va fuir. Il prend quand même un bout d'oreille de son frère, qu'on retrouvera un peu plus tard.
Comme ça.
En souvenir, quoi.
Oui, enfin, oui, je veux dire.
Bah, il va revenir là où il s'est trouvé si bien, au Japon.
Au Mont Fuji.
Alors, pas tout à fait. Donc là, il va marcher, hein, il traverse la Sibérie, et il va prendre le bateau pour arriver dans un petit village de montagne qui s'appelle Shingo. C'est là qu'il va se poser, fonder une famille, et prendre son vrai nom japonais, Isukirisu Kurisumasu.
Ok.
pourrait traduire par Jésus-Christ Noël.
Eh, sur le calendrier, tu sais, c'est le nom sur les calendriers, Noël, bon bah voilà.
D'ailleurs, les locaux s'y trompent pas, hein. Ils voient bien qu'il est un petit peu...
Différent.
Différent. Dans le musée local, on nous explique qu'il va être surnommé le gobelin au grand nez. c'est pas de moi, c'est les Japonais, je dis pour rien. Et il finira par y mourir, et sa tombe est toujours visible.
Ah.
Avec une tombe pour le bout d'oreille de son frère, qu'il a fait mettre à côté, parce que... Voilà.
Comme ça, ils sont ensemble pour l'éternité.
Voilà. Et donc, il a aussi une descendance au Japon.
Descendance qui a du coup les yeux bleus ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Là aussi, on pourrait penser qu'il s'agit que d'une belle histoire, mais on a des preuves.
Ah, on a retrouvé l'oreille.
Le musée local nous apprend, par exemple, que les locaux ont des coutumes étranges pour le reste du Japon, comme porter des toges, et que les nouveau-nés étaient mis dans des langes arborant l'étoile de David.
Ok.
Surtout, en termes de preuves, il y a quand même le testament de Jésus, qui nous assure de la vérité de la chose. Donc, il a été découvert et analysé en 1936 par un groupe d'archéologues, donc on va reparler. Et c'est un peu comme ça qu'on connaît l'histoire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait que la tombe d'Adam et Ève est à une vingtaine de kilomètres de là.
Ah, parce que le Jardin d'Éden n'était pas loin du Japon.
Ouais, bah, était au Japon.
Oui, logique, pardon.
Mais bon, ça, on y reviendra aussi. Mais le petit problème, ces documents ont apparemment été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oh.
Ça arrive. Alors, ces documents, ils avaient été retrouvés par un prêtre Shinto qui s'appelle Kyotaro Takeuchi, mais aussi un historien nommé Banzan Toya et un missionnaire chrétien qui, à l'époque, annonçait que l'empereur était le nouveau messie des Juifs.
À l'époque, en 1936.
Ouais.
Logique.
Et ouais, il s'est pas trompé de beaucoup. Hein.
Non.
Et aussi, il y avait le maire de Shingo qui était là aussi, qui était un personnage un peu curieux, donc Denjiro Sasaki, qui est un visionnaire persuadé du potentiel touristique de sa ville. Bref, ses œuvres, c'est ce qu'on appelle les documents Takenouchi, parce qu'ils auraient été écrits en fait par Takenouchi no Sukune au 1er siècle, soit un contemporain de Jésus.
Oui, plus ou moins.
Alors, je mets un peu de conditionnel parce que les premiers textes historiques qu'on a reconnus officiellement du Japon, ils datent du 8e siècle.
Donc bon, bah, en 7 gros, siècles d'avance.
En gros, ce qu'il faut se dire, c'est on est dans la vérité historique du roi Arthur.
Oui, ok. Donc,
voilà.
Sûr, quoi. 100%.
Voilà, les premières ampleurs, tout ça, tout est bien établi. Et dans ces documents, l'histoire de Jésus, alors si c'est notre focus d'aujourd'hui, bah, elle est finalement un peu dérisoire par rapport à la somme des connaissances contenues qui font notamment la fondation d'un mouvement qui s'appelle Amatsukiyo, qui finira par être banni par l'empereur pour crime de lèse-majesté, mais ça c'est une autre histoire. Le message principal, c'est qu'il ne faut pas penser que l'être humain d'aujourd'hui est au top de sa forme.
J'ai déjà entendu ça.
Au contraire, notre espèce est plus ou moins en constante déliquescence et on perd de notre superbe au fur et à mesure des grandes catastrophes qui affaiblissent l'espèce. Donc si tu veux, tout a commencé au Japon, au mont Kurai, où le descendant du soleil va arriver sur Terre et il va guider les humains et les aider à développer l'écriture, l'agriculture, mais aussi, bon, les transports et les ordinateurs.
C'est Bill Gates, en fait.
Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que commence la dynastie des empereurs mondiaux.
Donc, mondiaux, les empereurs du monde.
Les empereurs du monde, il y a 8 milliards d'années.
Ouais.
À peu près.
À peu près.
Et que ces empereurs mondiaux, ils vont envoyer les 5 races d'hommes, donc les blancs, les rouges, les bleus, les jaunes et les noirs.
On a perdu les bleus dans l'histoire.
On verra pourquoi. Ils vont être envoyés pour conquérir le monde.
Ok. Et se battre dans les Jeux Olympiques.
Non, et le Japon, il va rester au centre d'un monde qui est divisé en 16 régions. Et d'ailleurs, si tu regardes l'emblème impérial du Japon, le chrysanthème de l'empereur du Japon, il a 16 pétales. Et donc, le centre de ce gouvernement mondial va être situé dans les montagnes Ida.
Logique, parce que c'est central.
Ouais,
par rapport au monde.
Ouais, mais bon, comme on a des avions, on s'en fout.
Oui,
ouais. ça va vite. Donc, pour discuter avec les dieux, Bah, on va créer des structures, ce qu'on appelle des temples en japonais, de hiramito. Tu vois, hiramito, pyramide.
Ah, voilà. Antenne.
Exactement. Mais à cause de la corruption qui s'installe, les dieux vont déclencher différents tenpenchi, donc les grandes catastrophes qui vont anéantir notamment les continents de Mu et de l'Atlantide.
Ah bah oui, on retombe sur nos pieds, tout va voilà, bien.
Tout va bien. Bien entendu, on va y retrouver aussi les récits des passages de Jésus au Japon, mais aussi bah, Moïse, forcément.
Après le Sinaï, pareil, sans ligne droite.
Si tu veux les lire, bien que les originaux aient été détruits, on a une transcription quand même.
Heureusement, qui a été sauvée au péril de sa vie.
Qui a été faite par Wado Kosaka, qui est au Japon un célèbre cosmo-archéologiste, qui a eu son heure de gloire en appelant les ovnis en direct à la télévision.
Et ils ont répondu ?
Il les a appelés.
Non, mais le temps de la transmission, ils sont
c'est
loin
ça.
Et tout.
Bien sûr. C'est ça. Mais il n'y a aucune raison de douter de lui, encore une fois.
Non.
Donc finalement, on a trois hypothèses très crédibles. L'Angleterre, l'Inde et le Japon. C'est assez dur de trancher entre les trois. Moi, je pense que, vu la somme de preuves, de preuves historiques qu'il y a là-dessus, on est obligé de considérer l'hypothèse qui les regroupe toutes, c'est-à-dire l'ubiquité de Jésus, qui puisse se démultiplier.
Effectivement, effectivement. Ou qu'il ait fait, qu'il ne soit pas resté, parce que c'est long quand même, 17 ans, tu vois, tu as le temps de bouger un peu, quoi.
Ouais, mais attends, pour apprendre la sagesse hindoue, pour devenir maître yoga et pour...
Ouais, mais c'est un génie, oui. Puisqu'il avait déjà réussi à apprendre le judaïsme à 12 ans. Tout le judaïsme. Il avait oui. fini le judaïsme à 12 ans, il peut bien finir l'hindouisme à 21, oui. pour aller au Japon finir le japonisme en... Parce qu'à l'époque, ils sont quoi ? Ils sont bouddhistes déjà ? Non, même pas.
Non, ils sont... Ils doivent être toujours un mélange de Shinto et bouddhisme.
Bon, bref, ça se finit rapidement. Enfin, tout le monde qui a déjà essayé de comprendre le bouddhisme sait qu'en deux semaines, c'est plié, quoi.
Ça va vite.
Et après, on va construire des cabanes en Angleterre.
Oui, des maisons en torchis à Glastonbury, parce que c'est la meilleure application.
Quand t'as appris tout ça.
Quand t'as appris tout ça.
C'est logique. C'est le stage de troisième, quoi.
Donc voilà, il y a encore, je pense, un petit peu de travail pour bien affiner ces hypothèses. Mais... Je pense que le fait de, il est tout seul avec son rabot et il a...
il fait des coupes.
Et il fait des, voilà. Et il taille des bouts de bois, ça me paraît assez peu crédible.
Ouais, c'est vrai. Parce que, surtout à une époque où le voyage est si facile et aisé.
Quand tu vas en lévitation, de toute façon.
Quand on lévite vite, on peut tout faire.
Pas de problème.
Eh bien, on en aura appris des choses sur Jésus. Je pense qu'on en a encore plein à apprendre.
Oui. La joie de Jésus, c'est le cadeau qui continue à s'offrir.
Voilà, en permanence. Puis on va encore découvrir des nouvelles choses, oui. Sûrement. Les archéologues nous le diront.
Les cosmo-archéologues.
Cela, j'allais le dire. Eh bien, on va continuer en parlant d'un autre...
Empereur mondial.
Empereur mondial. L'empereur des États-Unis, c'est un peu l'empereur du monde.
Oui.
Finalement. Joe Biden, si tu te regardes.
Le dieu empereur.
L'empereur dieu de Washington.
De Mar-a-Lago.
alors justement, ouais. À l'heure où un certain milliardaire putatif, puisque apparemment il est un peu fauché là en ce moment, tente de reconquérir la Maison Blanche pour éviter la prison ou être dictateur pendant un jour. T'as entendu ça?
Oui.
C'est sympa.
Je veux être dictateur, mais pas longtemps.
Ouais, c'est ça. Juste au début, le temps de me débarrasser des.
C'est ça. On fait les trucs importants, on les fait vite, et puis après, comme ça, on peut revenir à on fait rien et on fait la démocratie. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ça n'a jamais, jamais mal tourné, ce genre de plan. Ouais, je me suis dit qu'il serait quand même important donc, de rappeler l'existence de cet autocrate qui a dirigé les États-Unis pendant près de 20 ans, l'empereur Norton Ier.
D'accord, il était médecin aussi.
Alors, c'est pas le même. Norton, non, celui-là, il n'est pas médecin. Mais,
là, il n'a pas fait d'antivirus, quoi.
Non, a priori, non. Mais peut-être un César perdu, il y a des moments où on ne sait pas trop ce qu'il fait, donc pourquoi pas. Bref, tout commence le 4 février 1818 ou 1819. Hein, tu sais ce que c'est, que les grands hommes, la légende pollue un petit peu la vérité, on ne sait jamais trop. Dans le sud de l'Angleterre ou en Écosse. Pas très loin.
Ouais.
Bon. Ce jour-là, donc...
C'est de la sémantique.
Oui, on est à peu près sûr que c'est un 4 février, même si, quelle que soit l'année, ce jour-là naît Joshua Abraham Norton. Deuxième fils d'une famille de marchands juifs de la classe moyenne, bon, voilà, sans histoire.
Ah, Norton, j'aurais pas dit qu'il était... Enfin, Joshua et Bram...
Un peu plus, quand même.
Un peu plus, mais...
Je pense que c'est par sa mère, parce que son père a effectivement un nom très, très anglais. Genre, il s'appelle John Norton ou un truc comme ça. Bon. Je sais pas ce qu'il y a de plus important dans cette histoire. Quand Joshua a 2 ans, sa famille émigre en Afrique du Sud, parce que le gouvernement anglais trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent anglais dans la colonie d'Afrique du Sud. Trop de... d'autres.
D'Africaneurs.
D'Africaneurs, oui, en pratique. Puisque les Noirs sont morts. On en a déjà parlé quand on parlait de Chaka Zulu.
Et on avait fait un autre épisode sur le...
Sur les Boers, ouais.
Sur les
Boers,
ouais.
Boers, oui, bref. Bon, l'histoire, l'espoir de la famille Norton, c'est de faire fortune. Hein. Et 20 ans plus tard, l'entreprise familiale se dirige doucement mais sûrement vers la faillite. Parce que le père Norton n'est pas hyper bon en commerce. Deux des frères de Joshua meurent. Sa mère meurt aussi.
C'est une époque où on meurt beaucoup. Hein.
Ouais, on meurt un peu vite, on meurt facilement. Et finalement, en 1848, c'est au tour du père de passer l'arme à gauche. Et donc, Joshua se retrouve orphelin. Et s'il était resté au Cap, puisque donc ils sont vraiment au Cap de Bonne-Espérance, il aurait hérité des dettes donc, de son père, puisque faillite, tout ça. Et l'histoire du monde en aurait été sûrement changée. Mais il se trouve qu'à environ 17 ans, puisque donc, toujours un petit doute sur son année de naissance... Donc, vers 1845, Joshua avait décidé d'enfourcher le destrier du destin pour s'envoler.
D'assumer les grandes responsabilités qui vont avec les grands pouvoirs.
C'est ça. Et donc, de tenter sa chance au Nouveau Monde. On sait qu'en février 1846, il débarque à Boston, depuis un navire qui est parti de Liverpool, et il se dirige ensuite vers l'Amérique du Sud. Et là, c'est les années sombres. on ne sait pas ce qui se passe.
Est-ce qu'il est allé en Inde ?
Non, a priori, il est quand même allé en Amérique du Sud, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, c'est le mystère dans la légende. Mais Joshua réapparaît en novembre 1849 à San Francisco avec 40 000 dollars de l'époque en poche. Soit...
une belle fortune.
600 000 dollars, en gros, de maintenant. C'est un beau moyen de commencer, quoi.
Ça permet de se lancer dans la vie.
Voilà. Et donc, on est en pleine ruée vers l'or, hein, 1849, San Francisco. Et en homme avisé, Joshua se lance dans le commerce de pioches et autres produits de base. Fin 1852, sa fortune est estimée à 250 000 dollars, soit presque 10 millions de dollars de maintenant.
Ah oui, parce que j'étais resté sur, il est parti à 600 000. Et...
Non. Oui, du coup. Non.
Il est parti de 40 000 et...
Et il est à 250 000, soit donc presque 10 millions. Et là, la Joshua Norton Company s'est un peu diversifiée. Maintenant, il fait de l'import-export et de l'immobilier.
Là où il y a de la thune à se faire, quoi, il est là.
Voilà, c'est un notable de San Francisco. Il est parfaitement intégré hein, dans la bonne société. Il fait partie des clubs genre Rotary, trucs comme ça. Il finira par devenir franc-maçon aussi. Et il dîne dans les meilleurs restaurants de la ville. Et c'est là qu'il entend parler... d'une opportunité commerciale à même de démultiplier sa fortune. Il se trouve qu'à l'époque, la Chine est en pleine révolte des Taiping, donc famine, et le gouvernement de l'empereur...
Donc, un des frères de Jésus.
qui est vraiment lié à tout.
Voilà, on vous renvoie à l'épisode qui parle de la révolte des Taiping.
Voilà, oui, donc on comprend qu'il y a une petite famine en Chine, et le gouvernement de l'empereur interdit toute exportation de riz. Ce qui fait qu'à San Francisco, le prix du kilo de riz est multiplié par 9, passant à 36 cents la livre, enfin la pound, donc un demi-kilo, quoi. Mais Joshua apprend donc, de par ses relations, qu'un navire péruvien est sur le point d'arriver à quai avec à son bord 91 tonnes de riz. Donc il se dit...
J'achète le riz, voilà. Je fais la culbute.
C'est ça, ni une ni deux. Il achète toute la cargaison à 12,5 cents la livre. Soit 25 000 dollars. Sauf que, quand le navire débarque enfin sa marchandise, en fait, plusieurs autres chargements de riz péruviens sont arrivés à San Francisco, ce qui fait que le prix de la livre est redescendu à 3 cents.
Ah.
C'est les ravages de la mondialisation, déjà.
C'est ça. La spéculation, ça tue l'esprit de commerce.
C'est ça. C'est parce qu'il n'avait pas assez prié la main invisible, je pense.
C'est ça.
Bref, Joshua perd donc la majorité de son investissement, hein, et comme il s'estime floué, il va se tourner vers les tribunaux. Après 2 ans de bataille judiciaire et une décision de la Cour suprême de Californie, quand même, il est débouté. Et
mais c'était quoi son truc? C'était genre
Bah, c'était que le riz était pas de bonne qualité, que donc c'est pour ça qu'il a perdu, puis qu'on lui avait pas dit qu'il y avait d'autres bateaux qui arrivaient, et bon. Et les tribunaux ont dit, bah, écoute,
t'as perdu.
Ouais, c'est le reste du métier, quand même, vieux. Donc, bah, il se retrouve juste avec ses yeux pour pleurer et ses avocats à payer, quand même.
Bah, il a pas perdu. Tu dis, il a 25 000 dollars?
Ouais, en soi, il n'a pas perdu énormément à ce moment-là, sauf que donc les factures de ses avocats s'empilent. Et puis pendant 2 ans, il néglige un petit peu ses affaires. Ce qui fait que, assez vite, bah, il se retrouve un peu fauché. Il essaye de se faire élire collecteur des impôts, histoire de se refaire, d'avoir un salaire quand même qui tienne, mais ça ne marche pas. Et en 1856, il est déclaré insolvable. C'est la king quand même.
Ouais, ça arrive hein, aux empereurs dieux.
Ben oui, c'est le début, quoi. C'est le moment où il souffre un petit peu avant d'être. Voilà. Mais insolvable au point qu'il est obligé d'emménager dans une pension pour travailleurs pauvres, quoi.
Ouais.
Vraiment, il est à la limite d'être SDF. Mais c'est la qualité des grands hommes, quand même, de ne pas se laisser abattre par les revers du destin. Hein. Et en août 1858, il se lance dans la course pour le Congrès des États-Unis. Alors, j'ai pas compris si c'était pour devenir sénateur ou représentant, mais bref, en tout cas, il se lance dans la course. Sauf que, manigance du Deep State, sûrement.
Oui.
Je vois que ça. En 1859, quand l'élection a effectivement lieu, son nom n'est pas sur les bulletins.
Ah.
Donc il ne peut pas se faire élire.
Aux États-Unis, il n'y a pas des trucs où tu peux mettre.
Oui, il y a le write-in.
Le write-in où tu peux mettre le nom de.
Ben, mais il ne devait pas être assez connu, ouais. Je pense. Enfin bon, toujours est-il, moi, je pense que c'est le Deep State. Hein. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre.
Ou la concurrence à l'empereur mondial.
Ouais, ou alors c'est Jésus.
Oui.
Je sais pas. Toujours est-il, donc il n'est pas élu, forcément. Mais 10 jours après l'élection, donc du 7 septembre 1859, il n'est pas. Déjà, il est déçu de ne pas avoir été élu, puis il n'est pas content des mecs qui l'ont été. Il prend donc la seule décision raisonnable pour l'avenir de son pays. Et il l'annonce publiquement au travers d'une proclamation dans le San Francisco Daily Evening Bulletin. Donc un journal.
D'envergure.
D'envergure. Et il l'annonce en ces termes. À la demande péremptoire et selon le désir d'une large majorité de ces États-Unis, moi, Joshua Norton, me déclare et me proclame empereur de ces États-Unis.
Finalement, c'est un process qui ça va plus vite que la démocratie. Quoi.
Ouais, c'est logique. Je veux dire, tout le monde aurait fait ça à sa place. Et bon, il continue un peu là, je ne veux pas te lire toute la proclamation, mais en gros, dans cette même proclamation, il ordonne aux représentants du Congrès de quitter Washington pour se réunir au Music Hall de San Francisco, pour y tenir une convention nationale et changer les
voilà,
lois.
Voilà, reconnaître, lui faire une couronne.
Oui, puis changer la constitution quand même, pour qu'on dise qu'il est empereur, quoi. C'est un peu important, il est un peu, tu vois, il faut faire les choses dans les règles, quoi.
Ouais, il est attaché au bon, il est un peu procéduré.
Oui, 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 tout à fait. Un mois plus tard, le Congrès n'ayant pas réagi, Joshua publie un nouveau décret, toujours par voie de presse, pour le dissoudre, le dit Congrès. Et en arguant que de toute façon, il est gangréné par la corruption et, je cite, les sectes politiques. Ce qui n'est pas complètement faux, peut-être.
À l'époque, je... c'est...
1859. Je ne sais même plus qui est président.
Bah, on n'est pas très,
très loin de Lincoln, mais je crois que ce n'est pas Lincoln.
On ne doit pas être très, très loin de la guerre civile.
Oui, on n'est pas loin. Mais il va y prendre part, logiquement.
Du bon côté, j'imagine.
Alors oui. Enfin, il va y prendre part doucement, quand même. Oui. Pas par voie de presse. En janvier 1860, le Congrès, siégeant toujours à Washington, l'empereur Norton Ier, donc, ordonne au major général Winfield Scott, qui est chef de l'état-major à l'époque, et genre vraiment plus haut gradé depuis George Washington. On le connaît pas beaucoup, mais c'est celui qui a organisé la piste des larmes. Là où oui. Il y a beaucoup d'Indiens qui sont morts.
Et c'est pas lui qui a voulu filer la direction de l'armée Yankee à Robert Lee?
Je ne sais pas. Je n'ai pas lu ça. Enfin, je ne me suis pas beaucoup attardé sur Winfield Scott.
je t'avoue que c'est juste, j'ai écouté la semaine dernière Behind the Bastards, un très bon podcast qu'on vous recommande sur Robert Lee.
Oui, oh, il devait y avoir des choses à dire. Mais bon, donc il ordonne au Major Général là, d'évacuer le Congrès et d'arrêter ses membres par la force si nécessaire. Parce que bon, il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de sa gueule aussi. Hein, voilà. En février 1861, le Music Hall de San Francisco brûle. Donc Joshua annonce toujours par voie de presse que les membres du Congrès doivent maintenant se réunir à l'Assembly Hall, qui est une autre salle de spectacle. Hein.
Et il aurait pu les acheter, ces salles de spectacle. Ça aurait...
Bah là, il a toujours plus un rôle. Hein, quand même. Il est toujours ruiné.
Il a assez pour faire publier des trucs.
Oui. Ouais. Effectivement. Enfin, il envoie des lettres. Enfin, il est publié dans le courrier des lecteurs. Hein, pas non plus. Mais ouais. En 1862, après l'invasion du Mexique par Napoléon III, Joshua ajoute « protecteur du Mexique » à son titre, parce que ça mange pas de pain. Et puis, il entame une correspondance avec ses homologues étrangers, hein, notamment la reine Victoria, à qui il propose le mariage pour un peu resserrer les liens entre leurs deux pays.
Ah, le move Amin Dada.
Un peu, ouais. Alors, bizarrement, Victoria n'a jamais répondu. Mais alors, mais peut-être parce que le courrier s'est perdu.
Ouais, c'est peut-être que quelqu'un a intercepté le courrier.
Je pense, le Deep State, encore une fois.
C'est ça.
C'est sûrement ça. Et il envoie aussi des lettres à Kamehameha V, roi de Hawaï, qui est le premier souverain étranger à reconnaître Joshua Norton comme empereur des États-Unis et protecteur du Mexique.
T'as vu comment on fait pas de blagues sur Kamehameha?
Et c'est bien eux qui ont inspiré Dragon Ball. Enfin, Kamehameha Ier, du coup, pas V. Voilà, bon, encore une fois, à cause de l'état profond, je vois pas trop d'autres explications. Tous les décrets de Norton premier, et il en a publié plus de 250, restent sans effet.
Merde.
Ils ne sont suivis par personne. On se demande vraiment pourquoi, parce que, alors, cela dit, on parlait de la guerre de sécession, par exemple, il est en avance sur son temps, sur pas mal de trucs, il est farouchement abolitionniste avant le début de la guerre, et donc après toujours.
À une époque où c'est pas commun.
Bah, c'est pas la majorité de la population, ouais. En tout cas.
Puisque t'as même un... Je crois que c'est à ce moment-là où t'as un député qui se fait bastonner dans la salle du Congrès.
Parce qu'il est abolitionniste.
Parce qu'il veut... Oui, parce qu'il est abolitionniste. Parce qu'il tient un discours abolitionniste.
La démocratie. C'est, tu vois, ça apaise. C'est ça. Pour ça qu'on la met en place. Il a aussi réclamé que après la guerre, que les Noirs puissent utiliser les transports publics et soient admis à l'école publique, que les Chinois puissent témoigner devant les tribunaux, ce qui était un très très gros problème pour la communauté chinoise à San Francisco notamment, puisqu'ils n'avaient pas le droit de témoigner. Donc, c'est un peu dur de se défendre.
Oui.
Voilà. Il a réclamé...
Non mais c'est parce qu'ils avaient des avocats blancs qui savaient...
Ouais, c'est un problème de traduction, ça doit être ça.
Qui savaient bien prendre en compte leurs intérêts.
Oui. Il a réclamé aussi que les Indiens d'Amérique puissent former une assemblée de leurs chefs pour gérer leur territoire de manière indépendante. Il a réclamé que les femmes puissent voter et que les rues et les transports publics soient bien entretenus, nettoyés et réactualisés quand il faut.
J'aime bien la hiérarchie des trucs, genre on va rendre les droits et l'égalité pour les Noirs, les Chinois et les femmes, et on va balayer les rues.
Mais il insiste vachement, il y en a quand même pas mal, hein, des décrets, donc il y a des listes que vous pouvez trouver, des décrets.
Ouais, hashtag saccage San Francisco.
C'est ça. À un moment donné, il va à Sacramento pour je sais plus quelle inauguration, où bon, il s'invite lui-même, hein, oui. On l'a pas vraiment invité. Et le lendemain, il publie un décret, genre, il faut vraiment nettoyer les rues de Sacramento, c'est dégueulasse. C'est pas possible, quoi. Alors, est-ce que c'est lié au fait que, finalement, il passe quand même la majorité de son temps dans la rue? Parce qu'il est pas SDF, mais pas loin. Peut-être, on sait pas.
Et du coup, pendant ce temps-là, ses affaires... Alors...
Ah ben non, il a arrêté, il est empereur, plus besoin de...
Oui, c'est bon.
C'est en dessous de lui. Non, il fait plus qu'empereur.
Et ça paye bien, ça? C'est une bonne situation, ça, empereur?
Bah écoute, pas si mal. on va voir que c'est pas si mal pour lui. Ça lui permet d'avoir une vie qui est enviable, peut-être pas, mais pas mal. Bon, toujours est-il, l'État fédéral américain et le reste du monde, quand même, hein, s'entête un peu à ignorer...
Enfin, sauf Hawaï.
Sauf Hawaï, mais les restes du monde... Napoléon III, par exemple, il s'en fout. Protecteur du Mexique, bon... Ça a pas, c'est pas ça qui a provoqué l'échec de l'attaque française.
Perdu quand même.
Oui, mais je pense pas que ça soit à cause de Norton. Bon, on sait pas, je suis pas spécialiste de la période. Donc ouais, dans le reste du monde, on l'ignore un peu, mais à San Francisco, il devient un peu une célébrité. Dès 1861, il y a une pièce de théâtre qui lui est consacrée. Il se trouve que Mark Twain vit dans la même rue, et donc le connaît, et écrit des articles régulièrement sur lui, et sur Lazarus et Bomer, je crois. Qui sont deux chiens errants, qui sont un peu les mascottes de San Francisco, et qui suivent Norton dans les rues parce qu'il leur fait à bouffer. Bon. Donc dès ouais, 1861, un truc comme ça, quand il commence à y avoir des articles sur lui, en fait, les théâtres et les restaurants de la ville lui réservent une table. Donc il peut rentrer et il paye pas. En fait, c'est pour ça que sa situation est finalement pas si mal. C'est que comme si ça est devenu un peu une attraction. C'est bien d'avoir l'empereur Norton qui vient manger chez toi, tu vois. Donc tu lui files la bouffée gratos. C'est un influenceur, quoi,
Oui.
finalement. En preuve de sa popularité, en janvier 1867, il y a un garde de sécurité privé qui l'arrête pour vagabondage et qui tente de le faire intégrer en hôpital psychiatrique. Et indignation de l'opinion publique, articles incendiaires, etc., au point que le chef de la police de San Francisco est obligé de le faire libérer, de publier des excuses formelles dans les journaux. Et après ça,
Est-ce qu'il se fait bastonner en public? Genre
non.
une fessée publique ou...
Non, 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 parce que magnanime, Joshua, par décret, encore une fois, donne son pardon impérial au pauvre garde qui l'a arrêté. Et après ça, tous les policiers de la ville le saluent à son passage. Faut dire qu'il se balade en uniforme quand même. Il s'est fabriqué un uniforme que, après ou normalement, l'armée va lui en payer un nouveau parce qu'il est un peu trop élimé. Et sur son uniforme, il a rajouté des épaulettes dorées. Il a un chapeau en peau de castor avec des plumes de paon et des fleurs. Enfin, tu vois, il représente quoi.
Ouais, il a la classe. Après, c'est toujours la force de à partir du moment où tu l'assumes et tu endosses le truc et tu le vis.
Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est qu'il se vit comme un empereur, même si finalement tout ce qu'il fait, c'est sa journée type. Le matin vers la bibliothèque, il lit les journaux. Après, il va au resto. Et après, il se balade dans les rues de San Francisco et il parle aux gens. Il
Bah,
leur
c'est
parle de philosophie, de politique.
qui est plutôt un bon truc pour un empereur d'aller parler aux gens.
Ouais, effectivement. Alors, il publie aussi des décrets pour demander l'augmentation de ses émoluments, quand même. Ça marche pas de ouf. De temps en temps, il fait des trucs aussi où il dit, bon, j'impose une taxe sur les restaurants pour pouvoir y bouffer gratos, quoi. Bon. Du coup, il fait quand même imprimer des billets de banque à son effigie, entre 50 cents et 10 dollars, que les commerçants locaux acceptent quand c'est lui qui les donne. Toujours pour l'idée de, bon, allez, c'est marrant d'avoir l'empereur Norton qui passe.
Ils doivent valoir cher, non, maintenant, c'est...
Alors, j'ai lu qu'il y en a un qui s'était vendu 10 000 dollars, ouais, aux enchères. Et bon, bah voilà, il a pas un train de vie fastueux non plus, parce qu'il n'est pas dans le luxe, tu vois. Lui, il est
Ouais.
empereur pour la dignité du peuple.
C'est ça, et pour
Donc,
protéger le Mexique.
voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et l'État fédéral finit quand même par accepter un petit peu cet état de fait, puisque dans le recensement de 1870, Joshua Norton, dans la case emploi, est marqué empereur. Dans la case autre, il y a aussi marqué fou. Mais bon, ça, on n'a pas de preuve.
Non,
On ne sait pas s'il était vraiment fou ou pas.
diagnostiquer les gens à distance,
Ça se fait pas.
ça se fait pas.
Ouais. Bon, forcément, les rumeurs les plus folles, du coup, commencent à courir sur son compte. On le dit fils caché de Napoléon III, ce qui aurait impliqué que Napoléon ait eu un enfant à 10 ans.
Écoute.
Pourquoi pas, hein? On sait que les Bonaparte étaient un peu des chauds-lapins.
Et précoce.
Et précoces, mais voilà. On le dit riche à millions et cliniquement fou. Mais encore une fois, on n'a aucune preuve de ça. C'est sûrement bon, voilà. Et puis finalement, le 8 janvier 1880, en route pour l'Académie des sciences de Californie, où il doit
Être
être là, il s'écroule en pleine rue et meurt avant l'arrivée d'une ambulance qu'un policier avait appelée immédiatement. 2 jours plus tard, tous les journaux de la ville annoncent son décès, le roi est mort, vive le roi, tout ça, tout ça. Et près de 10 000 personnes quand même viennent lui rendre un dernier hommage à la morgue de San Francisco où son corps est exposé.
C'est qui? Il a désigné un successeur ou pas?
Non, il est mort sans enfant.
Ah.
Donc le trône impérial reste vide. Mais bon, tu as 10 000 personnes quand même qui viennent à la morgue et il est enterré au cimetière maçonnique du coin, qui n'existe plus, mais sa tombe a été déplacée plusieurs fois. Et son enterrement est payé par le Pacific Club, donc le Rotary local et les francs-maçons.
Tu m'étonnes, ils sont toujours là pour
Bah,
quand il s'agit de soutenir un empereur.
c'est ça. Et il y a quand même une trentaine de badauds qui assistent à son enterrement, et non pas un cortège de 3 km de long, comme on peut le lire par-ci par-là, notamment parce qu'entre la morgue et le cimetière franc-maçon, il n'y a pas 3 km.
Oui, tu peux faire des tours.
Oui, certes, mais bon. Donc il est mort sans descendance, le trône impérial est laissé vacant. Alors, de son vivant et ensuite, outre les rumeurs, il y a des journaux qui ont publié des faux décrets impériaux pour un petit peu par intérêt
Ouais,
personnel.
oui.
Donc il faut faire un peu le tri dans ce que vous verrez. Après sa mort, la légende est amplifiée, hein, forcément. On a prétendu qu'il avait imaginé la Société des Nations avec 50 ans d'avance. Bah bon, a priori, non. Enfin, on n'a jamais retrouvé le décret, en tout cas.
Après, si tu dis que t'es empereur mondial, d'un certain côté, t'as inventé la Société des Nations.
Ah non, il a jamais dit qu'il était empereur mondial. Oui. Lui était que empereur des États-Unis, hein, quand même. On a aussi prétendu qu'il ait publié un décret interdisant l'emploi du mot Frisco pour désigner San Francisco parce qu'il trouvait ça moche.
C'est vrai que c'est moche,
mais c'est aussi a priori faux. Notamment parce que dans le décret, il parle de linguistique et que le mot vient d'être inventé pas du tout à San Francisco, donc a priori, il ne le connaît pas. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il a publié un certain nombre de décrets pour exiger la construction d'un pont et d'un tunnel entre Oakland et San Francisco, ce qui fut finalement fait en 1933 pour le pont et 1974 pour le tunnel. Donc là, il a été visionnaire. Quand même.
Alors il s'est dit, il y a des trucs des deux côtés de la baie, ce serait pas con de les relier.
Alors il se l'est pas dit quand même comme ça, out of nowhere, c'est qu'il y a eu des architectes qui avaient publié un article avant en disant, faisable.
C'est faisable et c'est pas con.
Non, et, c'est pas, et ça pourrait servir. Donc lui, il a dit, bah décret, faites-le. Bon, ils ont pris un peu de temps, mais ils ont fini par le faire. Et voilà.
Il y a une plaque sur le pont.
Non, mais il y a la société des amis de Joshua Norton qui milite pour que le pont, le Bay Bridge, donc, soit renommé pont de l'empereur Norton. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais il y a une rue quand même. Enfin, il a deux ou trois blocs, je ne sais plus trop où, dans San Francisco. Et voilà, l'histoire est injuste hein, quand même parfois avec les grands hommes. L'empereur Norton Ier est tombé dans l'oubli quand même.
Hein, trop.
Ouais. Ce n'est plus qu'une attraction touristique à San Francisco.
Et heureusement qu'on est là pour raviver la flamme.
Bah voilà, c'est ça. Alors quand même, seule reconnaissance éternelle pour Norton Ier, il a été fait saint par l'église du discordianisme.
D'accord.
Que je ne connaissais pas, mais dont on va reparler un autre jour parce que c'est particulièrement drôle. Et ça n'a rien à voir avec Discord, le logiciel. Quoique, je me demande si les mecs qui ont créé Discord ne connaissaient pas l'église du discordianisme. En tout cas, l'empereur Norton Ier est saint de cette église, aux côtés, entre autres, de King Kong et de Don Quichotte.
D'accord.
Et du héros de Catch-22. C'est le seul saint du discordianisme qui a réellement existé. Honneur, quand même, s'il en est.
Effectivement. On a appris des trucs.
On a appris énormément de choses. Importantes, en plus.
Importantes que vous allez pouvoir ressortir dans des dîners...
À vos oraux, qui arrivent bientôt.
Voilà, et faire s'esbobir tous vos amis et camarades.
C'est ça.
Et du coup, si vous voulez continuer en attendant à apprendre des choses, n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord du Label Podcut, à écouter d'autres podcasts du Label Podcut. On a notamment 4 nouveaux podcasts.
Nouvelle recrue.
Voilà, ça parle de littérature, de préhistoire, de gastronomie, de dépêche mode. Enfin, il y a plein de nouveaux sujets. Vous pouvez aussi nous soutenir et soutenir le label en participant au Patreon. Vous pouvez, bien sûr, nous laisser des avis, venir discuter avec nous à travers les réseaux sociaux, faire tout ce que vous faites pour soutenir les podcasts que vous aimez.
Voilà, mettez-nous des étoiles.
C'est ça. Et on se retrouve la prochaine fois.
Ouais, à la prochaine fois.